Vous écoutez RTL.
Tout de suite, c'est un libertin chez les Esquimaux. Bonsoir Bruno Fuini. Bon, c'est pas vous le libertin chez les Esquimaux. On est d'accord, on est ravis de vous accueillir, hein, toujours dans la curiosité. On rappelle à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore, vous êtes écrivain, historien, et que ce soir vous allez nous parler d'un homme extraordinaire. C'est un aventurier, un libertin qui s'est retrouvé comme ça sur la banquise. Bon, on va calmer un peu les esprits tout de suite. Un libertin au XVIIIe siècle, c'est pas un homme libre dans ses mœurs, c'est pas un échangiste. On va faire rapide.
C'est pas le DSK du Grand Nord.
On en reparle.
Oui, c'est ça.
Disons que Georges Péan est quand même au départ un jeune homme coquin, pour dire les choses, oui. Et on va l'envoyer au grand large et dans le grand nord, un peu pour le calmer aussi, pour rafraîchir ses sens.
Ah, quand même, un petit peu.
Ça d'accord. S'appelle un bon teaser en mauvais franglais.
Bon,
en tout cas, l'histoire que vous allez nous conter dans quelques minutes est vraiment fascinante. Restez avec nous sur RTL.
Nous sommes des pionniers.
La curiosité est un vilain défaut.
Des explorateurs.
RTL.
Des découvreurs.
Thomas Hugues.
Assaillis de questions.
Sidonie Bonnec.
L'humanité commence peu à peu à élucider les mystères du monde vivant.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Notre invité a le don de nous raconter des histoires qu'on n'aurait même pas imaginées. Possible, Bruno Fuini, vous avez retrouvé la trace, un peu par hasard, d'un aventurier, d'un libertin du XVIIIe siècle qui a eu une vie absolument extraordinaire. On ne connaît pas forcément son nom, c'est Georges Péan, mais grâce à vous, on va vraiment prendre le temps de découvrir son destin fascinant. Comment vous avez retrouvé sa trace ? C'est un manuscrit que vous avez retrouvé quoi, dans une brocante ? Vous l'avez chiné quelque part ?
Les brocantes sont beaucoup électroniques de nos jours.
Eh oui.
Donc, j'essaye d'être attentif à ce qui passe en vieux papier. Il y a un flux colossal de vieux papiers
sur
quotidiennement.
Internet.
Oui. Très souvent, vous voyez passer des documents qui, pour un historien, ont de l'intérêt, mais qui sont généralement des documents parcellaires. Ça va être une lettre, ça va être un document officiel, vous voyez, un fragment de quelque chose avec une information. Ça peut être très, très utile. Ce qui est beaucoup plus rare et qui m'est arrivé, c'est de voir en vente, tout simplement, n'importe qui pouvait l'acquérir, un manuscrit complet, totalement inédit, de 1798, donc il y a presque 220 ans que ce texte avait été écrit, et c'est un manuscrit d'un homme qui raconte sa vie. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un simple document historique, c'est déjà un petit peu une œuvre. C'est un homme qui, à un moment de sa vie, se retrouve plusieurs mois un petit peu en déshérence, et donc il occupe son temps en noircissant des pages et en racontant tout ce qu'il a vécu.
Oui. Mais alors comme ça, sur le papier, Bruno Fuini, un homme qui raconte son histoire dans un manuscrit, bon, il doit y en avoir des tonnes quand même.
Bah, pas tant.
Qu'est-ce qui
à cette
fait que ça a attiré votre œil d'historien ?
D'abord la date, 1798, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une époque qui est quand même assez riche historiquement, et en tout cas qui m'intéresse beaucoup. Et puis, ce qui était intéressant, c'était le titre. Le titre du manuscrit, c'est « Vie, voyage et aventure » de Monsieur P, trois petits points. « Aventure » d'ailleurs est écrit avec deux A, c'était la graphie de l'époque, puisqu'un aventurier, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Et donc, évidemment, ça attire l'œil. Vie, voyage et aventure. Mmh. On commence à entendre un petit peu les voiles. Le vent dans les voiles.
Et les champs de
frégates, les coups de feu, les mouettes. Bon, ça sentait bon, oui. Si vous voulez. Et puis, j'ai commencé à lire quelques pages. Je me suis dit, ça a l'air vraiment tout à fait intéressant. Donc, j'ai fini par me procurer le manuscrit en question. Et au départ, vous savez, c'est à la fois une grande émotion et un petit plaisir égoïste de lire un texte dans son manuscrit, au moment où ce texte n'est disponible qu'à un seul exemplaire. Ça, c'est toujours extrêmement touchant.
L'exclusivité,
l'impression d'être un petit peu dans la confidence de quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais, qui est mort de longtemps, mais qui vous a laissé un message. C'est l'effet bouteille à la mer, si vous voulez. Alors,
Mais qu'est-ce qui lui est, pardon Bruno Fuini, je vous interromps, mais ce manuscrit de 1798... Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est une longue errance avant d'aboutir dans vos mains et de finalement créer ce lien entre un aventurier breton du XVIIIe siècle et un historien parisien de 2016 ?
Tout à fait. C'est pour ça que j'emploie l'expression de bouteille à la mer, parce que c'est vraiment ça. On n'arrive pas vraiment à tracer. J'ai pu retrouver donc les détenteurs du manuscrit sur les 5-6 dernières années, mais pas avant. Il est clair que c'est un manuscrit qui a été terminé en Allemagne en 1798. 1798. Il est en langue française, par contre. Hein, c'est donc un noble émigré qui est en Allemagne vers la fin de la période révolutionnaire. Il a raconté sa vie sous la forme de lettres à un ami. Donc, c'est sans doute dans les papiers de cet ami que ce manuscrit est revenu en France et a dû dormir pendant un certain temps. Puis, il est passé de main en main dans un milieu très restreint de collectionneurs, si vous voulez. C'est un texte qui n'était pas connu et son auteur était lui-même totalement inconnu. Et d'ailleurs, l'auteur signe uniquement avec
Monsieur
le P.
Voilà. Alors comment P3 vous faites
pour... Ah oui, j'ai dit n'importe quoi. Tout à l'heure, je disais que son nom était sur le manuscrit.
Son nom a été ajouté sur le manuscrit. D'accord. Et heureusement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc, il a écrit sa vie sous la forme de lettres à un ami. Quelqu'un a ajouté au crayon, sur la couverture de ce manuscrit, que c'est un manuscrit de Monsieur Péan, ami de mon grand-oncle qui l'a connu en Allemagne pendant l'immigration. Donc le P devient Péan, c'est pas l'auteur qui se nomme, c'est le petit-neveu du destinataire du manuscrit.
Bruno Fulini, décrivez-le-nous ce manuscrit. Il est beau, il ressemble à quoi ?
Alors déjà, la beauté du papier. Hein, nous sommes à une époque où le papier, il est fait à la cuve, c'est pas les affreux papiers d'imprimante que nous utilisons et qui tomberont en poussière dans 100 ans. C'est une trame épaisse, forte, ça ressemble un petit peu au voile des navires pour le coup, hein, puisque c'est fait avec des chiffons. C'est des chiffons qu'on faisait macérer dans des cuves, puis qu'on étalait sur des grilles. Donc c'est un papier qui est fort et qui résiste vraiment à beaucoup de choses. Donc en fait, ce manuscrit, il donne l'impression d'être quasiment neuf, à part la couverture qui est un petit peu abîmée. Le reste est d'une fraîcheur extraordinaire.
L'écriture est belle.
L'écriture n'est pas celle d'un écrivain, donc elle est un petit peu abrupte, mais elle est
celle
visible.
Celle d'un aventurier breton.
Oui, c'est vraiment un homme d'action. Il y a peu de ratures, ce qui laisse penser que ça n'est pas le premier jet, qu'il a dû mettre ça au net, en vue peut-être d'une publication, sauf que cette publication, elle n'arrive qu'en 2016.
Grâce à vous, avec ce livre, Un libertin chez les Esquimaux, qui est publié aux éditions du Trésor. Et d'ailleurs, il faut signaler la beauté de l'iconographie de la couverture.
Déformation
professionnelle de Medialmax.
Non, mais c'est un trésor, ce livre.
C'est un très beau livre.
C'est magnifique.
Et d'ailleurs, il y a un portrait. Est-ce que c'est effectivement Georges Péan, l'avez-vous retrouvé ?
Non, malheureusement.
Tiens, je vais le montrer sur RTL.fr en attendant.
Malheureusement, le visage de Georges Péan nous est inconnu. Il a été difficile de le retrouver. Donc, ce qu'on sait de lui, c'est d'abord ce qu'il nous dit lui-même. Donc, on sait qu'il est né vers 1760. D'accord. Donc qu'il prend la mer vers 18 ans et qu'il va vivre de grandes aventures. Il appartient à un milieu très particulier, l'aristocratie, mais la toute petite aristocratie, celle qui n'a pas d'argent, celle qui a des titres, celle qui a un orgueil fou, qui ne veut surtout pas déchoir en faisant des travaux infamants,
mais qui vit de quoi là ?
Alors qui sert soit l'Église, il y en a qui deviennent ecclésiastiques, soit le roi. Dans l'administration, la justice et les armes, bien sûr. Le métier roi, c'est celui des armes. Alors, Péan a un père, vous voyez, ils n'ont même pas de particules. Hein, c'est vraiment une toute petite famille, mais noble pour autant. Il a un père qui, visiblement, travaille dans la magistrature ou dans l'administration, on ne sait pas. Ce que l'on comprend, c'est que c'est très emmerdant. Qu'il est dans la paperasse, dans la poussière. Et alors, notre
et
jeune...
Et que le fils veut pas
vraiment,
prendre la suite,
pour rien
c'est
ça, au monde. Ouais. À une époque où, bien sûr, on est censé reprendre la charge de son père, quand on est le chef de famille futur, si vous voulez. Donc Péan veut échapper, en fait, à ce destin de paperasse et il rêve d'aventure et de combat.
Mais avant d'être aventurier, il va se destiner à une carrière ecclésiastique ?
C'est envisagé, mais il ne le souhaite pas du
ça
tout.
Ça l'intéresse pas plus que la paperasse.
Bon. C'est-à-dire que lui confesse à un moment son amour de Vénus, ce qui est un petit peu délicat dans ses fonctions.
Le libertin pointe son nez, on va faire connaissance avec lui dans un instant.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
L'exploration des océans et des nouveaux mondes.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est souvent soldé par des disparitions.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Des voyages sans retour.
C'est un aventurier resté inconnu jusqu'à aujourd'hui et que l'on vous fait découvrir ce soir dans la curiosité. Imaginez un libertin chez les Esquimaux, il fallait le trouver. C'est notre invité Bruno Fulini qui a retrouvé sa trace et qui raconte son destin dans un livre qui est publié aux éditions du Trésor. Donc vous avez poser le décor, en quelque sorte. Ce manuscrit, c'est un journal de bord, des lettres envoyées à l'un de ses amis. Vous le retrouvez sur Internet parce que c'est votre passion de retrouver comme ça des manuscrits anciens. Et vous avez tout de suite le sentiment d'avoir une pépite entre les mains. Ça vous permet de retracer un destin, celui de ce Georges Péan. On est au 18e siècle, c'est un Breton de petite noblesse qui va quoi ? Décider sur un coup de tête de quitter sa famille et le destin que ses parents lui proposaient ?
Oui, c'est une famille tout à fait aimante, mais qui vit à terre, hein, du côté de Morlaix. Et Georges Péan, lui, a envie d'aventure, il a envie de combat, il a envie de voir le monde. Et alors, il y a une solution toute simple à l'époque pour cela, c'est de s'engager dans l'armée. Et donc, il va vouloir souscrire un engagement, donc au départ dans l'infanterie, puisque c'est ce qui se présente à lui. Alors, il a 17 ans à l'époque, hein, il est tellement jeune, et sa démarche, puisqu'il fait cela, comment dirais-je, en secret de son père, gêne un petit peu même les recruteurs. Donc on essaye de le dissuader, et puis il insiste, il veut vraiment, donc il finit par signer. Et là, il se retrouve en garnison. Alors on est encore en paix à ce moment-là, donc il se rend compte que finalement la vie dans l'armée n'est pas si exaltante que ça. Il se retrouve en fait en casernement, il apprend à marcher au pas, enfin, bon, c'est pas exaltant. Et puis alors il va se passer du coup dans cet ennui un petit épisode qui va être déterminant pour sa vie et que lui raconte avec beaucoup de grâce, parce que c'est aussi un des aspects sympathiques de ce manuscrit.
C'est un conteur ?
C'est un conteur, c'est pas un écrivain, c'est un aventurier qui parle de sa vie, mais c'est quelqu'un dont on sent, et il le dit lui-même, qu'il a été un grand lecteur. Il est imprégné de la littérature de son temps, donc cette belle langue du 18e siècle, il la manie assez bien. Et quand
vous l'avez rendu accessible, pardon.
J'ai modernisé l'orthographe, voilà, et la ponctuation, mais j'ai respecté scrupuleusement son récit. Hein, donc c'est tout à fait lisible aujourd'hui, comme n'importe quel texte d'un écrivain du 18e siècle qui serait dans le français moderne, dans l'orthographe moderne. C'est surtout des questions de graphie. Le rythme et le ton est vraiment celui de Georges Péan. Et donc voilà, il est en permission aux abords de sa garnison. Et que trouve-t-on évidemment aux abords des garnisons ? Des filles de garnison. Donc il y a trois pauvres filles qui viennent proposer ce que vous imaginez à ces jeunes soldats. Simplement, le libertinage, c'est quelque chose qui est vraiment prégnant dans le XVIIIe siècle. Et donc, ces jeunes hommes ont des choses étranges en tête. Et l'idée qui germe, c'est de saisir ces filles, de les déculoter et de les fouetter. Fouetter, il y a un petit raffinement, avec des brassées d'ortie, puisqu'on est à la campagne.
Ça, c'est donc, l'idée de Georges Péan.
De Georges Péan et de ses amis. Il trouve ça très, très drôle. C'est très amusant. C'est un peu cruel, peut-être.
Oui, c'est un raffinement, ça dépend pour qui.
et donc ces pauvres filles se retrouvent les fesses à l'air, nous sommes évidemment en plein air et on les fouette avec des sortes de martinets improvisés avec des brassées d'ortie. Alors, petit raffinement supplémentaire, il se trouve qu'il y a un moine qui passe par là, alors qui est un peu choqué par ce qu'il
voit.
Mais
qui va rester regarder quand même.
Non seulement il va rester regarder, mais au départ, semble-t-il, pour se plaindre. Et Péan, en bon libertin qu'il est, va lui proposer de se joindre à la partie, ce qui, là, aggrave un petit peu son cas, puisqu'il tourne quand même en dérision la religion à la personne d'un prêtre. Et donc le moine s'en va épouvanté, furieux. Sans le moine, peut-être que cette petite partie de campagne n'aurait pas eu de suite, mais avec le moine qui fait du scandale, évidemment l'armée est obligée de mettre aux arrêts Péan, hein, le coupable qui a été identifié, et comme il ne veut pas, parce que c'est un noble, hein, il a sa dignité, il ne veut absolument pas dénoncer ses complices, et bien il se retrouve en prison et là il tombe malade. Alors,
va-t-il souffrir ?
Putride, vous l'écrivez.
Oui,
alors, il décrit.
Bon, ça c'est le langage médical de l'époque, c'est difficile de dire de quoi il est malade, ouais. Mais bon, l'état sanitaire des prisons et des prisonniers à l'époque laisse penser que ça ne devait pas dû être très agréable, puisque en fait, malgré son engagement, on finit par le libérer et le renvoyer dans sa famille, sans doute parce qu'on pense qu'il est à l'article de la mort. Hein. Et il va renaître. Il retrouve le manoir familial, il est soigné, c'est quand même un jeune homme solide. Hein. Donc, retour à la case départ, fin de cette brillante carrière militaire dans l'infanterie.
Fierté de la famille.
Et la famille est quand même un petit peu gênée par ce garçon, question, parce qu'on comprend qu'on va quand même avoir du mal à le mettre dans l'étude paternelle, avec toujours ces éternelles paperasses qui l'attendent. On va pas pouvoir l'envoyer dans l'armée. Heureusement, sa mère, elle n'est pas de Morlaix, elle est de Brest, et elle a de la famille là-bas, donc évidemment, qui travaille pour la Marine Royale. Et on se dit que finalement, ce jeune homme, peut-être que le grand air lui ferait le plus grand bien, et son père et lui partent à cheval. Alors, il y a une page très émouvante, hein, où le père et le fils, malgré tous leurs conflits, font ensemble ce voyage, vont à Brest. Il faut savoir aussi que quand on s'embarque à l'époque sur un navire, on part pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sait pas si on reverra les siens.
Alors là, Georges Péan arrive à Brest, il lâche son père et il embarque directement sur un navire. Ça, c'est pas comme ça.
Alors, il y a un engagement, hein, qui est signé. Donc la marine, c'est une administration aussi, hein, très conservatrice, très organisée. Donc il a des parents à Brest. Son père l'amène, il rencontre ses parents à Brest qui ont arrangé une entrevue. Il va signer un engagement. Il va donc préparer son embarquement. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait quand même relativement vite.
Oui, mais le départ,
et ça se fait en famille.
Passe pas comme prévu.
Alors, il faut bien se rendre compte que notre Péan, étant né en 1760, a maintenant 18 ans. Mmh. Nous sommes en 1778 et là, il a rendez-vous avec l'histoire. Parce que en 1778, que se passe-t-il ? Ça fait déjà 3 ans que en sous-main, avec Beaumarchais par exemple, la France soutient les insurgents américains, c'est-à-dire George Washington et tous ceux qui veulent libérer les colonies américaines de l'Angleterre pour former ce qui va devenir les États-Unis. Et ça, c'est un combat qui fascine évidemment les jeunes Français. Et en 1778, ce qui était un soutien un peu occulte, un peu secret, devient flagrant à telle enseigne qu'il y a la guerre qui est déclarée entre les deux grandes puissances navales du moment, le Royaume-Uni et la France. Donc là, c'est l'occasion de se couvrir de gloire en participant à la guerre du moment, la guerre de l'indépendance américaine. Et on imagine l'excitation de Péan. D'ailleurs, il fête cela, évidemment, joyeusement à Brest. Et donc, le lendemain, il a une panne de réveil quand il arrive
il
sur le quai.
Il rate son bateau.
L'escadre est partie. Et non seulement l'escadre est partie, mais avec ses affaires, avec sa malle à bord. Et il se retrouve comme un imbécile sur le quai en ayant raté l'occasion historique.
Mais c'est
la
pas
suite,
terminé.
C'est dans un instant, parce que comment il va retrouver ses affaires, et puis comment va-t-il pouvoir finalement embarquer, c'est ce qu'on vous raconte. Il est où le bonheur ? Le bonheur, il est dans la curiosité, figurez-vous, la curiosité de découvrir cet aventurier breton. Et d'ailleurs, Béatrice sur Facebook nous dit ceci : infiniment merci de me faire découvrir cet aventurier breton. Je suis impatiente de lire le livre de Bruno Fulini. Ça fait plaisir, ça, Bruno.
C'est génial.
Mais soyons justes, c'est le livre de Georges Péan.
Mais oui.
Moi, je ne fais que publier aujourd'hui, en fait, ce texte qui dormait depuis 2 siècles.
Oui, et puis vous avez, c'est votre curiosité aussi qui vous a attiré et qui vous a mené à ce manuscrit que vous avez trouvé sur Internet pour raconter l'histoire de ce Georges Péan qui a vécu au XVIIIe siècle et ce jeune garçon de petite noblesse bretonne qui rêve d'aventure un peu libertin sur les bords et qui va aller...
Sauf qu'il rate son bateau.
Notamment, voilà, à Brest avec ses parents pour s'engager pour l'Amérique, mais il va rater son bateau et manque de bol, il y a sa valise dans le bateau. On en est là, on est suspendu à vos lèvres, Bruno Fulini. Est-ce qu'il va retrouver ses affaires ? Est-ce qu'il va pouvoir enfin prendre la mer, ce Georges Péan ?
Il est bien embêté, il est désespéré. Alors, on est au XVIIIe siècle, hein, donc il verse des torrents de larmes. Enfin, je passe la phrase
au début de l'époque.
Voilà, exactement. Bon, alors son oncle à Brest lui dit « Bon, bah, écoute, c'est pas grave, ta cantine, hein, puisque c'est le terme, ta cantine, tu la retrouveras quand le bateau reviendra, s'il n'est pas coulé. Et quant à toi, on va te trouver un nouvel engagement. » Alors, il part quand même pour le continent américain, mais pas du tout pour l'Amérique du Nord et les insurgents de George Washington. Il part pour la Guyane. La Guyane est déjà, bien sûr, depuis longtemps une colonie française à l'époque. Et il ne faut pas oublier que cette guerre de l'indépendance américaine, c'est une guerre mondiale. C'est-à-dire que du moment que la France et l'Angleterre font parler la poudre, on se bat partout où la France et l'Angleterre ont des colonies, des possessions. Donc dans les Antilles, en Guyane et jusqu'en Inde, enfin tout autour du monde. Donc il arrive en Guyane et son rôle, ça va être de garantir la sécurité maritime de Cayenne et du littoral guyanais. Et donc, il va rester là pendant un peu plus de 2 années avec, là aussi, quelques aventures.
Il va vivre un naufrage, par exemple. Vous
par
pouvez
exemple,
le raconter.
À un moment, il doit aller chercher ce qu'on appelle à l'époque des rafraîchissements, c'est-à-dire, évidemment, des légumes, des fruits, tout ce qui permet de rester longtemps à bord sans souffrir du scorbut. Donc, c'est une petite mission qui devrait ne pas poser de problème. Sauf qu'il y a une tempête, alors qu'il nous raconte monde comme si c'était un opéra de Rameau. On en voit les
il
nuées.
Il est exalté, en fait, Georges Perrault.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, le petit navire sur lequel il se trouve fait naufrage. Et il faut savoir que Péan, comme la plupart des marins de ce temps-là, même si ça paraît incroyable aujourd'hui, ne sait pas nager. On n'apprenait pas à nager. Donc quand le bateau coulait, c'était quand même un gros problème. Heureusement, lui et quelques-uns des membres de son équipage réussissent à se raccrocher à une embarcation de secours qui est retournée. Donc ils s'y cramponnent pendant toute la durée de la tempête. Ils réussissent à dériver jusqu'au littoral, mais c'est un littoral sauvage, c'est la mangrove. Donc à partir de là, ils vont marcher à l'intérieur jusqu'au moment où ils vont trouver des habitants. Et de là, il va regagner Cayenne à pied.
C'était comme un héros un petit peu ?
Oui, parce qu'évidemment, lorsqu'il arrive à Cayenne, moi je vous raconte ça en quelques secondes, mais ça dure des semaines ces histoires. Donc on pense qu'il est mort. Et il revient, et ce qui est extraordinaire, c'est que comme il était parti faire des achats pour la marine, on lui avait confié évidemment de l'argent, des pièces d'or. Et il revient avec les pièces. Ça veut dire que même pendant la période où il était dans l'eau à essayer de se débattre contre la tempête, il a gardé l'or sur lui qui pouvait l'entraîner par le fond.
Et il y a aussi cet épisode, Bruno Fellini, où Georges Perrault est fait prisonnier des Anglais. Il est à bord du Britannia. Il décrit un traitement de faveur. Il remercie même les Anglais pour leurs bons soins. C'est un peu étonnant, quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Là aussi, il y a quelque chose qui nous paraît assez incroyable, parce que c'est encore un petit peu l'éthique chevaleresque de la guerre. À un moment, par exemple, il se bat au large de Cayenne. Il y a deux corsaires anglais qui arrivent. Il y a une vraie bataille navale. Ça aussi, c'est une rareté, un récit de bataille navale raconté de l'intérieur par quelqu'un qui l'a vécu. Et le combat est vraiment sanglant. Et les corsaires anglais finissent par s'en aller parce qu'ils sont pas loin de couler. Et peu de temps après, il va en Guyane hollandaise, qui est encore neutre à l'époque, et il retrouve ces deux navires à quai qui sont en train d'être retapés parce qu'ils ont vraiment failli aller par le fond. Il va voir les Anglais, il va les saluer et ils vont se féliciter mutuellement pour la qualité du combat. Et de la même façon, lorsqu'il rentre en France, faut imaginer, après donc presque 3 ans en Guyane, il retraverse l'Atlantique, il va revoir les siens, et c'est au large de la Bretagne qu'il est intercepté par les Anglais. Il se retrouve dans les pontons de Portsmouth, qui sont des prisons maritimes franchement pas agréables. Mais à bord, avant d'être livré au ponton.
C'est quoi une prison maritime ? Ça ressemble à quoi ?
Un ponton, c'est un vieux navire pourri qui ne navigue plus et qu'on utilise comme lieu de détention. Donc c'est vraiment abominable. En revanche, avant d'être livré dans ces pontons, il est à bord du navire qu'il a capturé. Et là, ce jeune homme est pris en charge par les midshipmen, donc les jeunes officiers britanniques qui apprennent le métier et qui font une collecte de vêtements. Parce qu'évidemment, après le combat naval, il n'est pas très présentable. Donc on lui donne de quoi s'habiller. C'est aussi une assurance mutuelle pour ces officiers de marine, de se dire, voilà, si nous traitons bien nos prisonniers, nous serons bien traités aussi le jour inévitable où notre navire sera pris. Et donc, après cela, il est renvoyé en France. Il y a un échange de prisonniers, en quelque sorte. Il débarque au Havre. De là, il rentre à pied à Morlaix. Et alors, il y a encore un moment extraordinaire. Il se présente chez lui après donc 3 années d'absence, toutes ses aventures, des jours de marche, et on ne le reconnaît pas. On a oublié.
C'est le retour de Martin Guerre.
C'est exactement ça. Ouais.
Et alors, vous croyez que c'est fini, les aventures de
Georges Perrault ? Non, on a dit un libertin chez les Esquimaux, il faut arriver dans le Grand Nord. Quand même.
Bah, grâce à qui ? Monsieur de la Pérouse.
Ah,
évidemment, rien que ça. À tout de suite, les curieux. Et dans le récit de notre invité Bruno Fellini, il n'y a absolument rien acheté. C'est passionnant. Comment un historien peut nous passionner pour un aventurier inconnu. On en parle tout de suite.
On en parle avec donc Bruno Fellini et on arrive enfin, Bruno Fellini, dans ce Grand Nord qui est l'une des promesses de ce livre, Un libertin chez les Esquimaux, qui est publié aux éditions du Trésor. J'appelle, pour ceux qui nous rejoignent, que c'est donc l'histoire de Georges Perrault, aventurier breton, petite noblesse. On est au 18e siècle. Il part tout jeune, il rêve d'aventure. La première fois, il part de chez lui, il a 17 ans. Plein d'aventures et d'épisodes à raconter.
Un peu libertin sur les bords.
Un peu libertin sur les bords. Coquin, comme vous disiez tout à l'heure, Bruno Fellini. Et donc, après un premier voyage en Guyane, il va se retrouver, quoi, vers le Grand Nord, grâce à Monsieur de la Pérouse. Alors, il faut d'abord rappeler qui est Monsieur de la Pérouse.
Alors, la Pérouse est surtout célèbre pour la fin de sa vie, c'est-à-dire l'exploration du Pacifique, à bord de l'Astrolabe et de la Boussole, et puis sa fin tragique, puisqu'on va mettre des décennies à retrouver sa trace, et donc à comprendre qu'il est mort à Vanikoro. Bon, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'avant, la Pérouse, c'est aussi un de ces marins qui ont participé à la guerre de l'indépendance américaine. Et c'est dans ce contexte que notre Péan va être amené à naviguer sous son commandement.
Donc il repart, il s'engage de nouveau.
Il est toujours officier auxiliaire militaire de la marine du roi. Donc il repart de Brest, on retraverse l'Atlantique, ça c'est une formalité, on arrive dans les Antilles, et il ne va pas participer directement sur le sol des actuels États-Unis à cette guerre, ni même au large. Il passe assez loin, et en fait il est à bord d'un navire qui se livre à ce qu'on appellerait aujourd'hui, même si le terme est totalement anachronique, une opération spéciale. La Pérouse a eu une idée tout à fait étonnante, originale. On va en baie d'Hudson, c'est-à-dire dans le Grand Nord. Mm-hmm. Le Canada, c'est aussi une possession britannique. Mm-hmm. Hein, ça fait corps avec les colonies américaines à l'époque. Et donc, on s'introduit dans une zone où aucun Français n'est venu depuis au moins un siècle. La baie d'Hudson, c'est cette immense baie qui est au nord du Canada, bordée par le Canada d'une part, le Groenland d'autre part. Aujourd'hui, on y trouve, par exemple, l'État inuit du Nunavut, vous voyez. Donc, on est dans une partie vraiment très, très froide hein, du monde. Simplement, c'est encore l'été. Donc, la mer n'est pas prise par les glaces. On peut entrer. Le but du jeu, c'est de sortir avant que la baie soit bloquée. Et pourquoi va-t-on en baie d'Hudson ? Est-ce que c'est pour éviter les combats ? Pas du tout. C'est parce que en bordure de cette baie, sur le littoral de l'actuelle province canadienne du Manitoba, eh bien, il y a des forts, et en particulier un fort assez puissant qui est le Fort Prince de Galles. Et ces forts sont des centres où les Anglais échangent des fourrures qui valent des fortunes contre des vieilles ferrailles, des clous, parce que les Inuits ont dramatiquement besoin de métal. Ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas en produire. Et donc, il y a un échange particulièrement inégal qui enrichit considérablement les Anglais, ce trafic de peaux de bêtes contre vieilles ferrailles. Et donc, c'est tout cela que la Pérouse va détruire, puisque un jour, le commandant du fort Prince de Galles, qui se croyait bien tranquille avec ses fourrures et ses bouts de ferraille,
voit débarquer un bateau français.
Voit au large deux solides frégates françaises, et assez vite, il amène le drapeau blanc, en se rendant compte qu'il n'a absolument pas les moyens de lutter. Donc, les Anglais sont faits prisonniers, ils sont embarqués, les Français raflent tout ce qu'il y a dans la forteresse et la font sauter. Et alors, il existe aujourd'hui des photos aériennes absolument magnifiques des ruines de cette forteresse. Mm-hmm. Donc imaginez un plan en étoile d'une belle forteresse en pierre du XVIIIe siècle, mais au milieu de la neige, en plein pays inuit, c'est absolument fascinant. Et cette opération, qui a l'air anecdotique, en fait c'est une opération qui a joué un rôle très important dans la guerre de l'indépendance américaine, parce qu'elle a fait perdre des revenus colossaux, évidemment, au trésor britannique, et ça a considérablement amoindri les possibilités des Britanniques.
Et notre Georges Péan était donc sur l'une de ces deux frégates. Voilà. Question alors de Béotien, mais il partait pour les Antilles. Ils se retrouvent dans le Grand Nord, ils étaient équipés pour ça ?
Alors, c'est une opération spéciale. C'est-à-dire que La Pérouse le dit dans ses propres mémoires qui coïncident parfaitement avec ceux de Péan. Les hommes ne savent pas où ils vont. Donc, ils sont au départ dans les Antilles, effectivement dans les mers chaudes. On monte vers le nord et de plus en plus vers le nord. À un moment, on ouvre des caisses et on leur distribue des lainages. Vous voyez qu'on n'en est pas aux vêtements techniques des explorateurs d'aujourd'hui.
Pas de colère, évidemment.
Non, des lainages, des gros lainages, j'espère, pour eux. Et c'est avec cela qu'ils vont devoir se débrouiller à une époque où il faut quand même monter dans les mâts pour actionner les voiles, hein, où il y a une vigie tout en haut. Donc, bien sûr, ils ont dû souffrir atrocement du froid, mais Péan est un dur à cuire, ça, il ne se plaint pas.
Ses lettres.
Il ne se plaint pas.
En revanche, Bruno Fulini, est-ce que Georges Péan qui arrive sur cette banquise, c'est quand même tout neuf pour lui, évidemment. Quel regard il pose sur cet endroit ? Sur les Inuits qu'il rencontre, ça va être bouleversant.
Nous sommes en 1782. Très très peu de Français ont vu ce que nous appelons des Inuits. Évidemment, lui à l'époque emploie le terme d'Esquimaux. Vous savez que ce terme est proscrit aujourd'hui hein, parce que c'est un terme de mépris pour dire les mangeurs de viande crue. Mais c'est le terme de l'époque, c'est pour ça que je l'ai conservé. Et donc il est étonné, fasciné. Il y a plusieurs pages. On voit que c'est un homme de son siècle parce qu'un petit peu dans l'esprit de l'encyclopédie, eh bien il les décrit. Il s'improvise ethnographe. Et ce qu'il dit est vrai.
Qu'est-ce qu'il décrit ?
Il décrit leur habillement en peau de bête, il décrit ces espèces de pirogues cousues hein, qui fait qu'on peut se retourner dans l'eau et puis revenir. Il décrit le partage des tâches entre les hommes et les femmes. Il est un petit peu effrayé par leur alimentation.
Il les appelle les sauvages aussi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils mangent ?
Oui, mais c'est pas méprisant dans la langue de l'époque. Ouais. Par contre, il est un petit peu étonné par leur goût du sang. Bien sûr, dans un pays aussi froid et où il est difficile de boire, lorsqu'on tue un phoque, eh bien, on lui tranche le museau et on aspire le sang pendant qu'il est bien chaud. C'est des habitudes alimentaires qui peuvent surprendre un Européen, mais voilà, il les comprend en même temps et surtout il les consigne. Donc là, on a quelques pages tout à fait extraordinaires puisqu'il décrit des Inuits en 1782, alors que les contacts sont extrêmement restreints avec les Français à ce moment-là.
Il n'a pas l'idée de fouetter des jeunes femmes avec des orties sur la banquise.
Je pense qu'il n'y a
comme
pas d'orties
et puis il avait fait en Bretagne.
Je pense que les Inuits pourraient lui
il
en remontrer
bien, donc,
en matière de libertinage. Donc,
ah, c'est vrai
voilà. Non, là, il est déjà passé à une autre, à une autre période de sa vie. Il est plus dans l'observation.
Ouais.
Oui, c'est un homme. Il a arrêté les enfantillages.
Bruno Fini, j'imagine votre bonheur, votre plaisir d'historien quand vous avez eu ce manuscrit entre les mains pour la première fois et que vous avez découvert ces pages, parce que c'est un roman que vous êtes en train de nous raconter. Ce bateau-là, ces deux frégates qui arrivent dans la baie d'Hudson, vous nous disiez... Bah, il faut qu'elles repartent avant la glaciation. Ils ont été bloqués ou ils ont réussi à repartir ?
Non, ils ont réussi à repartir. Ouais. Simplement, en fait, je pense que, et plusieurs historiens pensent que le vrai projet de la Pérouse, une fois ces forts détruits, ça aurait été d'aller regarder un petit peu plus loin s'il n'y avait pas ce fameux et mythique passage du Nord-Ouest qui permettrait d'aller directement ensuite dans le Pacifique. Et ça, il n'a pas le temps de le faire. Et plus tard, lorsqu'il naviguera dans le Pacifique, il reviendra dans la région, mais de l'autre côté, du côté de l'Alaska, toujours à la recherche de ce passage. Bon, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils réussissent à sortir de la baie avant que la sortie soit prise par les glaces et retour en Europe.
Et retour en Europe encore nouveau départ, c'est ça ?
Il y a encore d'autres aventures ?
D'autres aventures avec une rencontre. Alors on va être obligé d'aller un peu plus vite parce que c'est bientôt la fin de notre émission où on pourra lire toutes ces histoires dans votre livre aux éditions du Trésor. Il va faire une rencontre incroyable avec le calife de Calicut. On est où ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est ça, oui, on est où ?
Eh bien, vous voyez que la mondialisation, ça ne date pas d'hier, puisqu'après toutes ses aventures en Amérique et dans le Grand Nord, eh bien, il part aux Indes. Alors, entre-temps, la paix est venue, donc il n'est plus officier dans la marine de guerre, il est officier dans la marine marchande, et il arrive au sud de l'Inde, à Calicut, où il va rencontrer un personnage hors du commun, Tipu Sahib. Alors, Tipu Sahib, en fait, c'est un prince musulman qui s'appelle Fath Ali Khan, qui est devenu le souverain d'un royaume du sud de l'Inde puissant qui s'appelle Mysore et en fait c'est le dernier rempart sans doute de l'Inde contre la colonisation anglaise. C'est un combattant hors pair qui va vraiment causer de gros problèmes aux Anglais et qui s'est allié aux Français. Et donc là on est en période de paix, donc Péan ne combat pas, par contre il est invité à assister à quelque chose d'extraordinaire. L'armée de Tipu Sahib va faire un grand défilé en l'honneur des Français et puis le lendemain on va recevoir l'état-major de Tipu Sahib à bord du navire. Donc cette armée, c'est 12 000 hommes, des éléphants, des troupes persanes, des mercenaires européens, des troupes indiennes, des musulmans, des hindous. C'est un faste insensé. C'est les derniers moments de cette Inde française qui a fait tant rêver et qui va disparaître.
C'est vraiment un destin absolument dingue que vous avez découvert. Comment il est mort ? On sait comment il est mort, d'un mot ?
On ne sait pas. Son manuscrit est daté de 1798 et ce qui est très touchant, c'est que dans le dernier paragraphe, on pourrait penser qu'après tout ça, il en a assez. Il explique à son correspondant que si jamais il lui arrive de nouvelles aventures, eh bien, il nous les fera savoir. Il a 38 ans. Je suis persuadé qu'il a continué, mais dans une Europe en pleine révolution. Qu'est-il devenu ? Lançons un appel. Si quelqu'un a un document sur notre ami Georges Péan après 1798, je suis preneur.
Au 3210 sur RTL.fr. Merci. Je rappelle que vous publiez Un libertin chez les Esquimaux, cette histoire fantastique, c'est aux éditions du Trésor. Merci Bruno Fulini.
Vous écoutez RTL.